en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Inaugurée en mai 65 par le général de Gaulle, le radiotélescope de Nancy a pour objectif de mesurer l'impulsion radio des supernovas. Au cours d'une conférence donnée au Bureau des Longitudes en novembre 2009, Ismaël Cognard, chercheur au CNRS, au radiotélescope de Nancy, présente l'instrumentation spécialement développée à Nancy pour l'observation des pulsars les plus stables. Il présente également les résultats significatifs ainsi que quelques perspectives pour le futur. Tout de suite, Ismaël Cognard.
Je vais tâcher de vous donner un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec les pulsars dits rapides au radiotélescope de Nancy. Je vais essayer de ne pas être trop long, bien sûr. Un petit plan, rapidement pour ceux qu'on passe ça tout à fait encore en mémoire. L'observation radio telle qu'on l'a fait à Nancy, et ce qu'on fait spécifiquement comme observation radio, c'est-à-dire la chronométrie. Ensuite, je parlerai des applications, j'en prendrai deux qui sont les plus importantes. Ce qu'on fait sur les différentes théories de la gravitation, les différents tests qu'on fait, et puis sur ce qu'on peut faire sur un fond cosmologique particulier qu'on verra plus tard. Donc l'équipe Pulsar que j'anime à Orléans est relativement petite. Hein. On est deux chercheurs statutaires, moi-même et Gilles Thoreau, qui est astronome, plus un thésitif qui va nous quitter dans quelques semaines. Il va nous quitter pour aller à Berkeley aux États-Unis. Et Robert Fernman, un postdoc qui vient du Canada, qui retourne en Angleterre. Voilà, donc on va démarrer doucement par rappeler que les pulsars ont été découverts en 1967. J'étais pas bien grand à cette époque. Et ça, c'est l'image d'Épinal de la détection des pulsars. On imagine une belle antenne, comme on voit dans les publicités, pour je sais pas quoi, mais une belle antenne bien ronde. On imagine des gens avec un casque sur les oreilles, et puis dedans, ça fait spritch, spritch, spritch. En fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé en vrai. Par contre, le fait qu'à l'époque, on s'est dit c'était peut-être d'origine extraterrestre, ça, c'est réel. Ça a pas tenu plus de quelques semaines, mais ça a vraiment été évoqué à l'époque. La réalité, c'est plutôt ça. Ce n'est pas une antenne, c'est juste des câbles qui sont tirés dans la campagne autour de Cambridge. Jocelyn Bell, sous la direction de son directeur de thèse, Anthony Ewish, à l'époque, lors d'études de la scintillation des sources extragalactiques, elle a trouvé des sources émettant régulièrement des impulsions radio. L'idée d'étudier la scintillation des sources extragalactiques, c'est que les sources sont très loin dans l'univers. Et ainsi, on peut étudier tout ce qui se passe au niveau de la scintillation dans le système solaire à cause du milieu interplanétaire qui n'est pas complètement vide. Ils ont certainement trouvé des choses à partir de la scintillation, hein, de la taille des sources, des choses comme ça, mais ils ont aussi découvert les pulsars. Donc c'était des enregistreurs papier à l'époque. Donc l'étudiante Jocelyn Bell a regardé des kilomètres et des kilomètres de papier sur ce genre de dérouleur. La petite histoire, c'est que c'est Anthony Ewish qui a eu le prix Nobel en 1974 et Jocelyn Bell, rien du tout. C'est dommage. Il a fallu quelques mois pour vraiment mettre le doigt sur l'étoile à neutrons. Mais maintenant, on sait bien qu'une grosse étoile qui explose à la fin de sa vie donne naissance à une étoile à neutrons. Hein. Le cœur est compressé, contracté. Et dans 10 à 20 km de diamètre, vous avez l'équivalent d'une fois et demie la masse du Soleil. Et ça fait des objets extrêmement compacts, dont on pense que la majorité des constituants, ce sont les neutrons. Donc si cette étoile à neutrons, donc le reste de la grosse étoile qui a explosé, a un champ magnétique, alors c'est au niveau de ce champ magnétique qu'il se passe des choses intéressantes pour nous radioastronomes, c'est qu'il va y avoir émission de faisceaux radio au niveau des deux pôles, pôle nord, pôle sud magnétique. Et si l'axe de rotation de l'étoile ne coïncide pas avec l'axe magnétique, vous allez avoir ces faisceaux, donc alignés sur l'axe magnétique, ces faisceaux qui vont balayer l'espace. Et ça fait comme un phare au bord de la mer. Si vous êtes situé où il faut, sur la plage ou un radiotélescope, vous percevez à chaque tour de l'étoile une bouffée d'émissions radio. À l'époque, les objets ont été trouvés avec une répétition de l'ordre de la seconde. Toutes les secondes, flac, il y avait des ondes radio qui arrivaient. Maintenant, on en connaît un certain nombre. On en a presque 2000 pulsars différents qui sont répertoriés dans ce qu'on appelle une distribution des périodes. Donc on fait des petites boîtes parce qu'ils ne tournent pas tous à la même vitesse. Hein. Donc on fait des petites boîtes de vitesse de rotation, puis on compte combien il en tombe dans chaque boîte. Et voici ce que ça donne. La majorité des objets tournent en une seconde, typiquement. Donc ça, c'est les pulsars ordinaires. Il y a des objets qui tournent beaucoup plus vite et dont on ne comprend pas bien l'origine. Pour comprendre l'origine, il faut aller un petit cran plus loin et faire un graphique où l'on met les objets avec toujours la période sur l'axe des X. Mais par contre, sur l'axe des Y de l'autre côté, on va mettre le ralentissement de l'objet. parce que non seulement on détermine la période de rotation de ces objets, si on fait des observations pendant quelques jours ou quelques semaines, on va s'apercevoir qu'ils ralentissent. Alors pas beaucoup, hein, parce que vous imaginez bien qu'une fois et demie la masse du Soleil dans 10 à 20 km, une fois que ça tourne à quelques dizaines de tours par seconde, ça a de l'inertie, ça tourne bien. Mais on voit un petit ralentissement et on le mesure. Et là, on revoit nos deux populations de tout à l'heure avec la majorité des objets, donc des objets qui tournent en une seconde, qui ont un ralentissement relativement important. Et puis les objets beaucoup plus rapides, qui font un tour en quelques millisecondes. Vous avez des objets qui font plusieurs centaines de tours par seconde et qui ont un ralentissement très faible. À l'époque, on ne comprenait pas bien comment un objet pouvait être à la fois rapide et avoir un ralentissement faible, parce que l'image qu'on avait, c'était que l'objet est né avec une période courte, juste après l'explosion de la supernova, et puis rapidement, à cause du freinage, l'objet obtient une période plus longue. Donc un objet court devait avoir un ralentissement énorme, et là, ce n'était pas du tout le cas. Donc en fait, on pense qu'il y a eu recyclage, hein, la nature ne nous a pas attendus. Les pulsars évoluent, et passé une certaine limite, ils n'émettent plus d'ondes radio, ils ne tournent plus assez vite, le champ magnétique est trop faible, on ne les voit plus. Donc ils sont dans un espèce de cimetière, et si l'objet a la chance d'être dans un système binaire, c'est-à-dire si l'explosion de la supernova qui a donné l'étoile à neutrons n'a pas été trop asymétrique, le système binaire peut résister à l'explosion. Donc dans ce cas-là, vous avez la deuxième étoile, comme elle n'a pas explosé, c'est qu'elle est plus petite, elle évolue moins vite, elle explosera peut-être plus tard. La deuxième étoile est encore là avec le pulsar. Le pulsar s'éteint, et puis l'étoile compagnon donc arrive au stade où elle va peut-être éventuellement exploser, mais en tout cas où de la matière, elle chauffe et de la matière commence à s'épancher, les couches externes enflent, et cette matière qui enfle va pouvoir se déverser sur le pulsar. On ne peut plus l'appeler pulsar parce qu'on ne le voit plus en radio, mais sur l'étoile à neutrons qui n'émet plus d'ondes radio, va pouvoir se déverser dessus et par l'intermédiaire d'un disque d'accrétion transférer du moment angulaire. Hein. Et transférant du moment angulaire, on va réaccélérer l'étoile à neutrons radio éteint. Mais en le réaccélérant tellement qu'on va pouvoir réallumer les processus radio et le pulsar va redevenir visible. C'est le recyclage. Au début, vous avez un pulsar qui tourne à une trentaine de millisecondes environ à la naissance. En quelques millions, dizaines de millions d'années, il n'est plus visible en radio. Il continue à ralentir. On imagine qu'au moment où le recyclage commence à opérer, il tourne à un tour toutes les minutes, toutes les 10 minutes. La réaccélération est très efficace et le ramène à des périodes de rotation de l'ordre de quelques millisecondes en rallumant la radio. Et là, on voit donc des objets qui tournent très vite avec un ralentissement faible parce qu'ils ont été, ils ont perdu leur champ magnétique. Hein, il n'y a plus beaucoup de freinage. Donc là, c'est la répartition des pulsars dans la galaxie et ça confirme le fait que la majorité d'entre eux sont des pulsars relativement lents et relativement jeunes. On les voit donc dans le plan de la galaxie. Donc, on a compris qu'on avait maintenant des objets en rotation très rapide avec un freinage très faible. Donc, on a une stabilité de rotation qui est exceptionnelle, qui rivalise avec les meilleures horloges qu'on sache faire sur Terre sur des temps de quelques minutes, quelques heures. Donc, il y a des applications scientifiques en grand nombre, évidemment. J'en ai listé un certain nombre. Ce qui peut peut-être intéresser un petit peu le BDL, c'est par exemple, on peut évidemment essayer de raccorder les différents repères célestes avec ce genre d'objet parce qu'on va pouvoir mesurer leur position dans un repère qu'on appelle le repère écliptique parce qu'on va utiliser le fait que la Terre tourne autour du Soleil pendant un an pour déterminer leur position à partir de l'observation radio que l'on fait annoncer, par exemple. Mais aussi, on va pouvoir observer ces objets-là avec un réseau d'antennes qu'on appelle le VLBI, l'interférométrie à longue base. Et là, en observant cet objet pendant quelques heures avec des télescopes situés à différents endroits sur Terre, on va pouvoir positionner précisément le pulsar par rapport à ce qui définit la position de la Terre au moment où on fait l'observation. Donc vous avez ainsi un moyen de raccorder ce qu'on appelle un référentiel équatorial lié à la Terre et au mouvement de la Terre sur elle-même et un référentiel écliptique lié au mouvement de la Terre autour du Soleil. Bon, il y en a d'autres, donc je vais me limiter aux deux premiers, mais on peut utiliser ces objets-là pour étudier la turbulence dans le milieu interstellaire, par exemple. Hein. On peut étudier les pulsars qui sont dans les amas globulaires et mesurer leur mouvement propre. Donc en mesurant le mouvement propre des amas globulaires, on peut essayer d'avoir des idées sur le potentiel gravitationnel de notre galaxie. J'aime bien rappeler que c'est autour des pulsars qu'on a détecté les premières planètes extrasolaires, quelques années avant les planètes de Kelos et Mayor, En fait, bon, c'est des planètes qui sont autour de pulsars, donc la probabilité que ça puisse accueillir la vie est extrêmement faible. Mais quand même, hein, c'est les premières planètes autour d'un astre autre que le Soleil ont été trouvées autour d'un pulsar. Et d'ailleurs, je pense que c'est toujours les planètes les plus petites. Hein, c'est vraiment des terres. Elles ont des masses de 3 ou 4 masses terrestres. Les deux sont d'ailleurs en résonance et on voit des perturbations. Enfin bon. Donc l'observation des pulsars en radio, c'est des objets très faibles hein, qui sont situés quand même dans notre galaxie relativement loin. Donc il faut intégrer le signal, hein, il faut intégrer un maximum en temps et en fréquence. Hein. On peut jouer sur ces deux axes-là. On va essayer d'avoir un maximum d'ondes de radio de fréquences différentes. Donc on intègre en fréquence parce que c'est des objets qui émettent plein de fréquences à la fois. Ce n'est pas comme des atomes d'hydrogène qui émettraient une raie bien particulière. Hein. C'est des objets qui émettent plein de fréquences à la fois. C'est des objets à spectre continu. On va intégrer aussi en temps, en utilisant le fait qu'ils émettent des impulsions régulières. On va pouvoir les superposer les unes aux autres et ainsi faire sortir le signal du bruit. Donc il nous faut un grand radiotélescope. Il va nous falloir une horloge stable parce qu'on ne va pas pouvoir intégrer en temps si on n'a pas d'horloge stable au télescope. Et puis il faut une instrumentation spéciale pour ça. C'est ce qu'on va voir. Donc le grand radiotélescope, pour ce qui est de notre part, on utilise le radiotélescope de Nançay, donc en Sologne. Hein, c'est à peu près à une heure de notre laboratoire d'Orléans, plein sud. Et c'est encore, en termes de surface collectrice, le quatrième plus grand instrument au monde. Hein, il est équivalent à peu près à un télescope de 100 mètres de diamètre, sauf qu'il n'a pas du tout la forme d'un télescope d'une antenne bien circulaire, bien ronde, habituelle. Vous avez un premier miroir sur lequel les ondes se réfléchissent qui fait 200 mètres de long et 40 mètres de haut et qui est mobile sur un axe qui est horizontal, qui est situé à un petit peu plus de 20 mètres de haut. Et c'est constitué de 10 panneaux de 20 mètres de large chacun. 20 fois 10, ça fait bien 200. Et chacun fait 40 tonnes. Donc il y a chaque observation, et on fait une observation toutes les heures à peu près, il faut pointer cet ensemble de 10 panneaux de 20 mètres sur 40. Donc il faut bouger 400 tonnes, donc il y a des moteurs pour ça. En fait, on ne peut pas demander l'électricité à EDF parce que ça serait trop de puissance pendant un temps trop court. Donc il y a des groupes électrogènes, enfin il y a toute une série d'automatismes qui se mettent en route. Après cette première réflexion, il y a une deuxième réflexion sur l'autre miroir qui lui est une portion de sphère. C'est-à-dire qu'il est courbe dans les deux sens. C'est-à-dire on voit bien que là, il est courbe le long du sol, mais il est aussi courbe dans l'autre sens, en vertical. Et il fait 300 mètres de long. Sur 35 mètres de haut, donc c'est quand même la taille de la tour Eiffel couchée par terre. Ça fait du métal et ça fait de la peinture quand on veut le repeindre, ça c'est une autre histoire. Donc on observe entre 1 et 3 GHz, donc au départ il a été fait pour observer dans l'arrêt de l'hydrogène à 1,4 GHz. La surface en fréquence a été maintenant agrandie de 1 à 3,5. Bon, les caractéristiques techniques, je laisse, hein, une température de système de 35K, ce qui le place pas trop mal dans la compétition mondiale. Donc le problème de ces objets-là, c'est qu'ils souffrent de la dispersion qui est produite dans le milieu interstellaire. Le milieu interstellaire n'est pas complètement vide, il y a des électrons libres qui se promènent, et ces électrons libres produisent un retard qui est inversement proportionnel au carré de la fréquence. Donc ça, c'est un problème, parce que si on se dit « je veux beaucoup de bandes passantes pour avoir beaucoup de photons radio », pour avoir beaucoup de photons, pour avoir des mesures très bonnes, eh ben, faut que je fasse attention parce que plus je prends une bande de fréquence large, plus mes impulsions arrivent à des moments différents et j'élargis temporellement mon impulsion résultante. Si j'élargis une impulsion temporelle, bah, je mesure moins bien son instant précis d'arrivée, ce qui est le but. Donc à Nançay, on a une longue histoire d'instrumentation diverses et variées. Donc ça commence en 1988, quand j'étais en thèse à l'époque. Et puis il y a différentes générations bon, que je ne détaillerai pas là. On va arriver à la dernière. Donc il y en a qui ont des noms marrants. Vous aviez une instrumentation à oscillateur balayé qui était extrêmement maligne. On remplaçait un des oscillateurs dans la bande d'analyse du télescope par un oscillateur qui variait avec le temps de façon à faire comme le milieu interstellaire. Les dernières générations d'instrumentation sont basés sur de la dédispersion dite cohérente. Donc là, on utilise le fait que le retard qui est introduit par la dispersion dans le milieu interstellaire, il peut être vu comme un fil de phase, c'est-à-dire quelque chose qui joue uniquement sur la phase du signal. On va traiter la dispersion directement dans le domaine fréquentiel, dans ce qu'on appelle le domaine de Fourier, de la forme d'onde que l'on reçoit au télescope. C'est un petit peu complexe, je ne rentre pas trop dans les détails, Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est quelque chose qui va être très très demandeur en temps de calcul. Il va falloir faire des transformés de Fourier sur le signal, appliquer un filtre dans ce domaine de fréquence, revenir dans le domaine temporel pour continuer l'analyse. Donc on a annoncé installer ce genre d'instrumentation à dédispersion cohérente et on l'a fait de façon un petit peu moderne. C'est-à-dire qu'on a utilisé ce qu'on appelle des GPU. Alors les GPU, c'est les cartes graphiques haut de gamme qui ont été développées par les industries des jeux vidéo, en fait, pour pouvoir jouer à des jeux vidéo et avoir des temps de réponse extrêmement rapides sur ordinateur. L'industrie a développé des cartes graphiques surpuissantes et qui, pour certains calculs bien spécifiques, sont bien plus puissantes que le calculateur principal qui est dans l'ordinateur. On a développé une instrumentation à base de ces GPU pour Graphics Processing Unit, si j'ai bonne mémoire. Et on en a installé deux dans deux ordinateurs. On a refroidi le tout à l'eau parce que ça calcule très vite, mais du coup, ça chauffe quand même un peu. Donc on a refroidi ça à l'eau. Et ce système-là, il est capable donc de traiter une bande passante totale de 128 MHz, donc une bande déjà importante. Et ça fait environ la capacité de traitement d'un volume d'un CD par seconde. Les deux ordinateurs, là, ils reçoivent chacun un demi CD d'observation par seconde et ils les traitent. Donc c'est déjà une puissance de calcul assez conséquente. Bon. Là, vous avez le flot de données dans les ordinateurs. Donc, il a fallu faire vraiment attention à choisir chaque élément de cet ordinateur qui ont été montés pièce par pièce au radiotélescope de Nancy pour pouvoir gérer les flots de données importants. Donc, on va passer maintenant à ce qu'on fait avec les observations. Et ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle la chronométrie. Et ça démarre par la détermination d'un temps d'arrivée à votre télescope. Vous avez cette instrumentation. L'instrumentation reçoit le signal dans lequel il y a des bips. Les bips, on les superpose les uns aux autres. On sait à quel moment on a démarré l'observation exactement, parce qu'on a une horloge précise au télescope. Une façon simple de déterminer le temps d'arrivée, c'est par exemple de rechercher un point particulier sur ce pulse. On cherche le maximum. On sait à quel moment on est parti. Donc le temps d'arrivée ce jour-là, de cette observation-là, c'est le temps auquel on est parti, plus le petit décalage qu'il a fallu pour que le signal reçu du pulsar atteigne un maximum. Donc là, c'est un pulsar qui répond au nom de J1600-3053. Ça, c'est sa position dans le ciel. Et c'est un pulsar qui a une période de 3,6 millisecondes. En fait, c'est un petit peu trop simple comme méthode de détermination des temps d'arrivée. Donc on utilise quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué où on passe par un modèle. Et après, on fait ce qu'on appelle de façon mathématique une fonction de cross-corrélation entre les deux. C'est-à-dire qu'on multiplie les deux figures l'une par l'autre en essayant tous les décalages possibles jusqu'à essayer de les faire bien coïncider. Et quand les deux figures coïncident bien, qu'on a bien décalé l'une par rapport à l'autre, la multiplication, le produit des deux, grimpe énormément et l'algorithme de calcul est capable de le détecter. Alors si on fait ça, c'est parce que dans ce cas-là, on utilise toute l'information de la forme de l'impulsion. Tout à l'heure, on cherchait juste le maximum. Et ce maximum-là, il peut être entaché d'incertitude à cause de bruit. Si votre observation est un peu bruitée, le maximum va se décaler un petit peu à gauche à cause de cela. Là, bon, ça peut rester vrai. Mais par contre, comme on va vraiment utiliser toute la forme de l'impulsion, on est moins sensible à des effets locaux de fait que le maximum peut se promener un petit peu autour d'un point. Donc voilà, ça, c'est la méthode qu'on utilise, la cross-corrélation avec un modèle de référence. Donc après, une fois qu'on a des temps d'arrivée obtenus sur des jours, des semaines, des mois, on va les analyser. Et pour ça, on va se donner un modèle de propagation des ondes radio dans le milieu interstellaire. On va se donner un ensemble de paramètres du pulsar. Et ces deux faits mis l'un à côté de l'autre vont nous permettre de calculer des temps d'arrivée théoriques. Vous savez où est le pulsar dans le ciel, vous savez à quelle vitesse il tourne. Et vous savez comment se propagent les ondes radio dans le milieu interstellaire. Donc vous êtes capable de dire, de ce pulsar-là, au radiotélescope de Nancy, qui est situé en Sologne, en France, sur la Terre, autour du Soleil, les impulsions devraient arriver à telle heure, à telle heure, à telle heure, à telle heure. Donc on va regarder si les mesures qu'on fait coïncident ou pas. Et donc on va chercher à minimiser les différences temps d'arrivée calculé moins temps d'arrivée mesuré en changeant un petit peu les paramètres. Si ça ne marche pas, vous avez choisi un ensemble de paramètres pour votre pulsar, vous êtes capable de calculer à quelle heure ça arrive sur Terre. Si ça ne colle pas, c'est... Alors, soit vous avez oublié quelque chose dans la physique, mais ça, c'est peut-être un petit peu grave. Mais très très probablement, en tout cas d'abord, vous êtes tombé sur des paramètres du pulsar qui ne collent pas. Donc en changeant un petit peu les paramètres du pulsar, généralement ça s'améliore et vous arrivez à ce que la différence, enfin c'est que les différences, temps d'arrivée calculé, temps d'arrivée mesuré, soient toujours proches de zéro. Ce qu'on fait après avec ça, c'est qu'on inspecte les résidus de temps d'arrivée, on inspecte ces différences temps d'arrivée calculées pour voir si effectivement c'est proche de zéro, au cas où il y aurait un effet qui a été oublié. Ici, vous avez ce qu'on appelle donc des résidus de temps d'arrivée, des différences temps d'arrivée mesurées, temps d'arrivée calculées pour un pulsar qui s'appelle 18-21-24. Donc vous avez en abscisse la date et sur l'ordonnée en Y, vous avez donc la différence entre des temps d'arrivée mesurés et des temps d'arrivée calculés. C'est à peu près autour de zéro, sauf que pour ce pulsar-là, il s'est passé quelque chose en mars 2001, c'est que d'un seul coup, il s'est mis à tourner un petit peu plus vite. En mars 2001, il y a une courbe qui descend et qu'en fait, on réussit à redresser, à remettre dans le prolongement du comportement précédent en mettant une accélération de 3 nanohertz. On change la fréquence qui est de l'ordre de 300 hertz pour cet objet-là. On la change de 3 nanohertz, c'est-à-dire en relatif de 10 à la puissance moins 11, c'est-à-dire 0,10 et puis un 1. Donc quelque chose de très très faible. Mais il suffit juste de changer la fréquence de rotation de l'objet de cette quantité-là pour que le comportement redevienne normal, entre guillemets. Donc à ce jour, hein, c'est une observation, une découverte qui a été faite à Nancy. C'est le premier et c'est toujours le seul à coup. Alors en anglais, on appelle ça un glitch. Vu sur un pulsar recyclé, un pulsar qui a subi cette réaccélération. Parce que ce genre d'à-coups de rotation, on en a déjà vu quelques dizaines et probablement peut-être même quelques centaines, mais sur des pulsars jeunes. Je voulais mentionner aussi qu'avec l'instrumentation qu'on a annoncée, on peut observer ce qu'on appelle des pulses géants. Donc vous avez quelques pulsars qui présentent une particularité un peu spéciale, qui est d'émettre de temps à autre une impulsion, donc un bip radio là, beaucoup, beaucoup plus intense que la moyenne. Vous avez des bips qui arrivent régulièrement et d'intensité plus ou moins régulière hein, quand même, parce qu'il y a du bruit et puis le milieu interstellaire n'est pas toujours complètement aussi transparent au cours du temps. Et de temps en temps, il y a vraiment une impulsion radio qui est des milliers de fois plus intense. On appelle ça des pulses géants. Alors le mécanisme d'émission, il n'est pas encore bien compris, parce que ce n'est probablement pas aux mêmes altitudes au-dessus de l'étoile que cela se passe. Hein. Mais en tout cas, pour nous, même si le mécanisme n'est pas encore complètement compris, c'est un outil fabuleux pour étudier le milieu interstellaire en particulier. Parce que vous avez là une impulsion, et en général très très étroite, hein, quand on fait des observations très précises avec l'instrumentation qu'il faut, on s'aperçoit qu'il y a de la structure au niveau de quelques nanosecondes, quelques milliardièmes de seconde. Il faut imaginer que vous avez comme si c'était un flash lumineux, enfin un flash radio qui ne dure que quelques nanosecondes et qui se propage dans le milieu interstellaire entre le pulsar et vous. Et ça, il y en a de temps en temps. Donc vous êtes capable, à un instant donné, à l'instant où le flash passe dans le milieu interstellaire, de faire une photographie de ce qui s'est passé dans le milieu interstellaire à ce moment-là. Un tel pulse géant qui a été observé sur le pulsar du crabe, le pulsar classique lié à la nébuleuse du crabe. Donc là, observé toujours sur les 128 MHz de fréquence par petits morceaux de 4 MHz. Et on voit que la forme de cette impulsion brève et intense change un petit peu avec la fréquence. On voit aussi que c'est un petit peu de biais. Alors ça, c'est juste parce qu'on a mal corrigé, enfin, on n'a pas tout à fait bien corrigé de l'effet de retard dû à la dispersion dont j'ai parlé au début. Alors on va parler maintenant de ce qu'on peut faire une fois qu'on a de la chronométrie obtenue sur plusieurs mois, plusieurs années. Ce qu'on peut faire du côté des théories de la gravitation. Donc là, il va nous falloir des objets un petit peu particuliers. Il faut un pulsar recyclé pour que les mesures soient très précises. Il faut que l'objet tourne rapidement. Et il ne faut pas qu'il soit tout seul. Il faut qu'il soit avec une autre étoile à neutrons. Et généralement, enfin, quasiment tout le temps, l'autre étoile à neutrons, elle n'est pas vue comme pulsar. Alors, elle est peut-être pulsar, mais le faisceau radio n'intersecte pas le radiotélescope sur Terre. On estime qu'environ un pulsar sur quatre sont vus sur Terre. Les trois autres sur quatre ont leur faisceau qui passe au-dessus ou en dessous. Enfin, le dessus, le dessous n'a pas vraiment de sens, mais le faisceau n'intersecte pas la Terre. Donc là, il nous faut deux objets, un vu pulsar et l'autre étoile à neutrons. Et on va être capable de mesurer précisément le mouvement orbital du pulsar autour du centre de masse, parce que les mesures sont précises. Donc on fait ça d'abord avec une description keplérienne. On va mesurer les 5 paramètres kepleriens qui décrivent le mouvement de l'objet autour du centre de masse. Donc il y a la dimension de l'ellipse qu'il fait autour du centre de masse, il y a l'ellipticité, donc est-ce que c'est proche d'un cercle ou pas, la période orbitale, le temps qu'il met à faire ce mouvement, et puis des angles et des dates de référence sur l'orbite. Alors ce qu'il faut bien voir ici, c'est que comme il y a un effet de projection sur le ciel qu'on ne peut pas deviner, qu'on ne peut pas mesurer, les masses des deux étoiles ne sont pas accessibles. Alors tout n'est pas perdu, heureusement, sinon je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Il y a des effets relativistes. Comme on mesure très précisément tous les paramètres et que les objets tournent, sont très très compacts et tournent rapidement l'un autour de l'autre, toute théorie de la gravitation, dont celle d'Einstein, prédit des effets relativistes, donc des effets en plus que ce que peut le malheureux Kepler dans cette histoire. Donc on va par exemple avoir une avance du périastre, c'est-à-dire que l'ellipse, le pulsar qui fait une ellipse autour du centre de masse, cette ellipse va lentement tourner avec le temps. Donc c'est ce qu'on appelle l'avance du périastre. Vous avez une modification de l'angle oméga. On va avoir une diminution de la période orbitale. Effectivement, le système entier, c'est pas seulement le pulsar, c'est le système en entier va perdre de l'énergie parce qu'il va y avoir émission d'ondes gravitationnelles, en fait. On y reviendra plus tard. Donc comme il y a de l'énergie qui sort du système, le système diminue de taille. Vous avez la période orbitale qui diminue. On a aussi ce qu'on appelle le retard Shapiro, des décalages gravitationnels, peu importe. On a plusieurs effets qui amènent à plusieurs paramètres qu'on dit donc post-keplériens, qui viennent après la description de Kepler. Comme il reste deux masses à déterminer, on peut voir que si on mesure deux de ces paramètres-là, on a autant d'inconnus qu'autant d'équations dans notre système, en quelque sorte, et on va pouvoir déterminer les deux masses. Donc ça veut dire que s'il y en a un troisième, on a plus d'informations que nécessaire pour déterminer les masses, et on va donc pouvoir tester les théories de la gravitation. Toute l'idée est là. Il nous manque de masse quand on fait une description keplérienne du mouvement. On a des effets relativistes qui donnent accès à des paramètres post-kepleriens. Ces paramètres post-kepleriens, il en suffit de deux pour avoir les masses, mais dès qu'on en a un troisième, un quatrième ou un cinquième, alors on a davantage d'informations et on peut voir si les masses qui sont obtenues à partir de deux paramètres post-kepleriens prédisent bien l'effet du troisième paramètre et on peut croiser comme ça. Vous voyez l'idée, il y a plus d'équations que d'inconnus dans un système d'équations. Alors là, on voit par exemple en relativité générale comment s'expriment les 5 paramètres post-kepleriens que j'ai listés avant, selon les masses. Donc c'est un petit peu compliqué, mais bon, MA et MB qui sont les deux masses des deux étoiles, l'étoile à neutrons A, l'étoile à neutrons B. Les 5 paramètres, oméga point, donc le fait que l'ellipse tourne. Et puis les autres, gamma, P, alors la dérivée de P, R et S, dépendent que des deux masses. Enfin, pas tout à fait que des deux masses. Donc, ceci posé, voici ce qu'on fait à Nancy. Donc à Nancy, on observe le pulsar double 0737-3039A. Donc un pulsar assez célèbre parce que c'en est un ou c'est le seul où on peut, ou en tout cas on pouvait, il y a quelques années, voir les deux pulsars sous forme radio. Les deux faisceaux intersectaient la Terre. Alors le pulsar B est maintenant difficile à voir à cause d'effets de précession. Mais peu importe, c'est pour ça qu'on l'appelle un pulsar double. L'effet Shapiro, c'est quand le pulsar est derrière son compagnon par rapport à nous et les ondes radio passent près du compagnon avant de nous atteindre. Et comme il passe au-dessus ou en dessous, comme il passe à côté du compagnon, il va être sensible au potentiel gravitationnel du compagnon. Vous allez avoir une petite déflexion et cette petite déflexion va produire un allongement de trajet. C'est assez similaire à l'observation qui a été faite au début du XXe siècle comme première vérification de la théorie de la relativité générale d'Einstein sur les éclipses de soleil. On fait une photo d'une région du ciel où il n'y a pas encore le soleil. On voit où sont les étoiles. On attend que le soleil vienne, si possible, la lune aussi, pour que ça cache le soleil. On refait une photo et on s'aperçoit que les étoiles au bord du soleil ont bougé un petit peu à cause de cet effet-là. C'est le même. Donc, dans cet objet-là, on le voit. Et alors là, je ne vois pas bien. Oui, c'est de l'ordre de l'amplitude est de l'ordre de quelques dizaines de microsecondes. Vous avez un allongement du trajet qui correspond en temps à quelques dizaines de microsecondes. Donc c'est pas beaucoup, mais on le mesure. On ne fait pas que ça sur cet objet-là. On fait aussi ce qu'on appelle des diagrammes masse-masse. Il faut se remettre en tête les cinq équations de tout à l'heure. Donc les différents paramètres, fonction des masses. Les paramètres, on les mesure avec certaines incertitudes. Le premier, là, la dérivée de le fait que l'ellipse tourne, la dérivée de l'angle oméga. Il y a une certaine incertitude sur la détermination des masses également. Si vous voulez, les mesures des différents paramètres apportent des contraintes sur les différentes masses MA, MB du système, dans le cadre de la relativité générale. Hein, on fait des mesures de paramètres post-keplériens, avec une certaine incertitude, ça apporte des contraintes sur la masse MA et la masse MB, les deux masses du système. Donc, ce qui serait bien, c'est que toutes ces contraintes aient au moins un point d'intersection unique, et c'est le cas. Donc, tout ça, ça fonctionne, et ça nous donne ces deux masses-là. Hein ? Si, encore une fois, la relativité générale, on imagine que c'est la bonne théorie qui décrit la gravitation. Dans ce cadre-là, les mesures qu'on fait nous donnent des valeurs des deux étoiles à neutrons de 1,3378, plus ou moins 7 sur le dernier chiffre pour l'une des deux étoiles à neutrons, et 1,2495, plus ou moins 7 sur la deuxième masse. Donc vous avez là des déterminations de masse extrêmement précises dans le cadre de la relativité générale. Et je vais terminer avec le dernier sujet, qui est la recherche d'un fond cosmologique d'ondes gravitationnelles. Donc là, on change de problématique. Hein. On est dans le cadre du Big Bang. Les théoriciens, les cosmologistes prédisent que de la même façon qu'il y a eu un fond d'ondes électromagnétiques à peu près à 300 000 ans après le Big Bang, fond électromagnétique qu'on voit actuellement sous forme de rayonnement radio dit très froid, hein, parce que ça caractérisé par une température de 3 degrés. De la même façon qu'il y a ce fond électromagnétique qui a été détecté il y a déjà un petit moment, en 1965, en radio, il y a aussi un fond d'ondes gravitationnelles, donc des ondes qui sont émises par des masses qui sont accélérées. Ce ne sont plus des charges qui sont en mouvement, qui sont accélérées, ce sont des masses. Et ces masses accélérées produisent des ondes gravitationnelles. Et là, les cosmologistes disent que ça se passe vraiment dans les tout premiers instants, dans la première seconde de l'univers après le Big Bang, pendant la période dite d'inflation. Donc là, ce que peuvent faire les pulsars, c'est qu'ils peuvent, enfin on pense qu'ils vont pouvoir éventuellement détecter ces ondes gravitationnelles provenant des tout premiers instants de l'univers. Hein. Pour faire ça, ils vont chercher un... On va utiliser le fait que sur Terre, on va observer plusieurs pulsars, et la Terre va voir ça. Alors, c'est un petit peu avec les mains, mais la position de la Terre va bouger à cause du passage de ces ondes gravitationnelles, hein, parce qu'une onde gravitationnelle qui passe sur un objet, ça le fait bouger. Ce qu'on va voir, c'est qu'en corrélant, donc en regardant ce qu'il y a de commun dans les observations qui sont faites de plusieurs pulsars, hein, ce qui est commun aux observations qui sont faites sur plusieurs pulsars, c'est qu'elles sont toutes faites sur Terre. Donc on va pouvoir être sensible au mouvement induit sur la Terre par les ondes gravitationnelles qui proviennent des tout premiers instants de l'univers. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire, hein, parce que c'est de la corrélation du bruit, donc ce n'est pas un signal extrêmement simple à sortir. Et en fait, on va faire ça par une mise en commun de toutes les mesures de temps d'arrivée qu'on va faire au niveau mondial. On va faire ça en s'organisant en réseau. Donc c'est une idée qui est sortie il y a plusieurs, une bonne dizaine d'années. On appelle ça le Pulsar Timing Array, donc le PTA en abrégé. On va en revoir là un petit peu. Alors c'est un détecteur qui est complémentaire des détecteurs qui existent déjà. Hein. Là, vous avez la sensibilité aux sources d'ondes gravitationnelles individuelles par différents types d'instruments. Donc vous avez PTA, hein, le Pulsar Timing Array, donc à très basse fréquence parce qu'on fait des observations sur 5 ou 10 ans, donc on va être sensible à des fréquences très très faibles, alors que des instruments telles que l'ISA qui vont être lancées dans l'espace d'ici quelques temps, on va dire, ou LIGO qui existe déjà sur Terre, eux vont être sensibles à des ondes gravitationnelles de fréquences plus élevées. Alors, pour ça, on s'est déjà lancé dans la course à Nancy. Donc, voici par exemple les 5 pulsars parmi les plus stables qu'on observe à Nancy. Donc, celui qu'il faut peut-être retenir, c'est le 1909-3744. Sur cet objet-là, qu'on suit précisément depuis pratiquement 5 ans maintenant, on a en moyenne un écart entre les temps d'arrivée observés et les temps d'arrivée mesurés qui est de l'ordre de 100 nanosecondes, un dixième de microseconde. C'est une quantité très très petite qui atteste que les mesures sont de grande qualité. Bon, c'est le meilleur, mais il y en a d'autres qui sont pas loin derrière. Et c'est ça qui est important, c'est d'en avoir beaucoup bien mesuré. Donc Nancy joue son rôle à plein dans ce pulsar timing array. Là, vous avez... donc c'est le résultat de la thèse de notre étudiant. Il va soutenir ça à la fin du mois. Pour les différents télescopes dans le monde qui font des observations, donc vous avez Arecibo, Green Bank, Parkes, vous avez Westerbork, vous avez Bonn. Nancy a un grand nombre d'objets qui fait à une microseconde et en dessous. Et en termes de nombre de pulsars et de nombre d'observations, on est très bien placé. Alors si on est bien placé, c'est parce qu'on a un instrument un peu particulier qui est un 100 mètres, qui n'est pas facile à utiliser du fait que l'antenne ne bouge pas. Donc ça restreint un peu les types d'observations qu'on peut faire. Il a été très bien dessiné pour faire ce genre d'observation, on appelle ça du monitoring dans notre jargon. On fait des observations régulières sur un nombre d'objets limité, on revient dessus souvent. Donc voilà la détectabilité d'un fond d'onde gravitationnelle avec les réseaux de pulsars. Donc on voit les différentes collaborations qui se mettent en place actuellement. On a PPTA, c'est les Australiens, EPTA, c'est les Européens. Et quand on combine tout ça, on obtient IPTA. Vous voyez qu'en combinant les observations qui sont faites dans plein de télescopes au monde, on va pouvoir aller accrocher des fonds d'ondes gravitationnelles qui sont de l'ordre de 10-14, 10-15 en amplitude. Donc bon, l'amplitude ne dit pas grand-chose, mais on voit que plus il y a un nombre important d'objets observés et plus il y a un grand nombre de télescopes dans l'affaire, on améliore la sensibilité de l'instrument total. Rappelez juste que les pulsars millisecondes les plus stables sont des outils uniques pour tester les prédictions des différentes théories de la gravitation. C'est les seuls objets pour lesquels on puisse faire des tests de la gravitation en champ fort. Dans notre système solaire, le champ magnétique est faible. Dans ces objets-là, le champ magnétique est fort. Et en fait, les différentes théories de la gravitation diffèrent justement beaucoup en champ fort. C'est là qu'on peut voir effectivement si Einstein a davantage raison qu'un autre, par exemple. Alors, ça sera aussi certainement ces objets-là, on peut l'espérer, enfin nous on l'espère en tout cas, les premiers à remonter de l'information vraiment mesurable des tout premiers instants de l'univers par la détection d'un fond d'onde gravitationnel d'origine cosmologique. Mais pour ça, il faut évidemment garder en fonctionnement des radiotélescopes, dont celui de Nancy, dont j'ai rapidement parlé, qui sont certes un peu âgés, mais qu'il faut continuer à soutenir. Voilà.
C'était Ismaël Cognard, chercheur au CNRS, au radiotélescope de Nancy. Sa conférence donnée au Bureau des Longitudes en novembre 2009 portait sur la mesure des impulsions radio des supernovas grâce à la technologie du radiotélescope de Nancy. Restez à l'écoute des conférences du Bureau des Longitudes, vous les retrouverez sur le site de Canal Academy, dans l'onglet émissions en colloque, rubrique science. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.